Vous êtes dans l'open mic, 10h23, vous le savez depuis hier, c'est la folie des inscriptions sur le blvd.fm parce qu'on a un méga concours qui s'appelle Touchdown dans ton salon. C'est pour le Super Bowl.
Oh, un de mes concours préférés
c'est
qu'on a eu à Boulevard parce que quand t'aimes le foot, ça c'est Target.
C'est Target, puis c'est parce que quand tu regardes le foot en gang, souvent, tu as préparé déjà tes idées de bouffe. Ta gang est invitée à la maison. Tu veux que l'expérience soit le fun, tu veux que ça sonne. Et faut des partenaires pour ça. Faut un bon système de son, faut une bonne TV.
Ça convient à tout le monde en plus, parce que les faux fans du Super Bowl sont aussi essentiels et importants.
Pour la mi-temps, entre autres. Donc, on pimpe ta maison en terrain de jeu ultime. C'est ça qu'on fait cette année pour le Super Bowl.
On est les exhibits du Super Bowl.
On est allé repêcher Stéréo Plus Audio Light pour vous offrir 3 250 $ d'électronique. C'est pas rien, là. La nouvelle télévision Samsung 65 pouces. As-tu idée? 65 pouces. Faites de la place dans le salon, là. C'est sorti cet automne, cette nouvelle télévision-là. Et on vous l'offre. Une barre de son aussi ultra mince Samsung avec le sub. Ça va sonner par chez vous. Comment participer? Assez simple. Vous écoutez Boulevard 102.1 tous les jours en semaine pour découvrir c'est quoi le salon de rêve des animateurs et vous notez ça au blvd.fm. En passant, il n'y a pas de limite de participation. Vous avez entendu l'indice hier, vous pouvez les accumuler tous les jours jusqu'au Super Bowl. Et on va livrer ça chez vous le samedi, juste avant la game, évidemment, du dimanche. Donc, vous allez pouvoir installer tout ça à maison, être prêt. Stéréo Plus, en passant, qui est maintenant dans un nouveau local au Mégacentre Le Bourgneuf, combiné à la maison Audio Light. Donc, encore plus de choix et de qualité. Surveillez ça sur la page concours blvd.fm. Il y a tous les détails, en passant, du concours. On jase ce matin avec un sociologue et l'auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». J'adore le titre de ce livre-là. C'est catchy, là, en partant. Étienne Guertin-Tardif qui est avec nous ce matin. Bon matin.
Hey, bon matin. Merci de me recevoir.
Bien, c'est un plaisir. C'est nous autres qui est vraiment... On est contentes parce qu'il y a tant de questions à poser. On a plusieurs sujets à aborder ensemble ce matin en partant. J'ai peut-être le goût, avant qu'on commence, Étienne, de te demander, ça fait quoi un sociologue au quotidien?
Parce qu'on dirait que un intellectuel pincé?
C'est flou quand même.
Hey, en effet, c'est flou. Puis je dirais que c'est une des questions les plus difficiles parfois à répondre lorsqu'on se la fait poser. Mais en gros, là, un sociologue va étudier... l'impact, l'influence de la société sur nos comportements, des comportements qui parfois nous semblent purement personnels, intimes, individuels. Mais finalement, le sociologue montre comment nos manières d'agir, de penser sont influencées par les différents contextes dans lesquels on se trouve, par la société, là, pour faire court, la société dans laquelle on se trouve. Donc, comment nos comportements sont conditionnés par les milieux sociaux dans lesquels on est ou par la société de manière plus générale dans laquelle on est appelé à évoluer.
Comment t'en viens à être intéressé par la sociologie? C'est quoi? Comment tu te rends là? C'est quoi les études? C'est un bac? C'est une maîtrise?
Oui, c'est ça. Il y a des programmes universitaires là, en sociologie, donc baccalauréat, là, qui est assez populaire. Beaucoup d'étudiants font leur bac en sociologie. Ensuite, on peut faire la maîtrise, on peut faire le doctorat pour ensuite devenir sociologue.
Ça rime à quoi, une fois qu'on est sociologue? Est-ce que ça rime à trouver des réponses exactes à certains courants de pensée ou courants d'agissement? Ou c'est plutôt une réflexion qui est constante?
Bien, être sociologue, c'est tenter d'étudier ce qu'on appelle les phénomènes sociaux. Là, c'est assez large. Mais tout ce qui se trouve, hein, le laboratoire du sociologue, en fait, il est un peu partout. Que ce soit le café que l'on fréquente, que ce soit, on étudie par exemple le système scolaire, ce que j'ai fait un peu dans mon ouvrage. Donc la société a une influence sur à peu près tout, évidemment, à commencer par les individus qui en font partie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tente de mieux comprendre, si on veut, le monde dans lequel on se trouve. Hein. Puis il y a les psychologues qui font ça également, les gens en économie, en sciences politiques. Mais si on veut, la sociologie, c'est un angle d'approche pour mieux comprendre tout ce qui est en rapport, si on veut, avec la vie humaine.
Donc, Étienne, ce matin, tu vas nous aider à comprendre pourquoi nos parents nous ont menti toute notre vie. Il y a un texte, il y a quelques jours, qui est sorti dans la presse, super intéressant, sur le fait qu'un parent aurait un enfant favori malgré lui. Puis pourtant, bien, on entend souvent que l'amour d'un parent, c'est inconditionnel, hein, qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce grand cœur-là. Est-ce que c'est vrai que la plupart des parents ont un enfant préféré?
Ben, écoutez, moi, j'ai été très, très, très surpris aussi de lire cette étude-là, parce qu'en effet, ça bouleverse les idées reçues. Ça met de l'avant le tabou, là, tu le mentionnais très, très bien, Audrey, selon lequel, bon, les parents ont un amour inconditionnel pour leur enfant, c'est-à-dire un amour qui ne se quantifie pas, hein, un amour qui est comme infini. Et là, tout d'un coup, il y a une étude qui sort qui nous dit, ben, dans le fond, les parents auraient un enfant préféré, un enfant favori, bien souvent, s'ils ont, évidemment, plusieurs enfants. Et ce que l'étude nous dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont les petites filles, hein, qui seraient le plus souvent, du moins, les favorites.
Les plus faciles à gérer, là.
Puis c'est la piste qui est apportée, hein, que ce serait, ben, on préfère souvent notre petite fille parce qu'elles sont plus faciles à gérer. Et puis ça renvoie en sociologie à un concept qu'on appelle la socialisation genrée. On le sait, on ne va pas élever, éduquer, socialiser nos enfants de la même manière en fonction que ce soit une petite fille ou un garçon. Les garçons, souvent, on les incite. Là, Noël est passé, là, on voit les cadeaux de Noël qui ont été mis sous le sapin. Les garçons reçoivent des voitures, des super-héros. Les garçons sont appelés à se définir, si on veut, dans l'action. Alors que pour les petites filles, bien, on leur apprend davantage à être dociles. On leur apprend davantage à être sensibles, si on veut, aux attentes que l'enseignant, que les parents ont envers elles, ce qui fait en sorte que, bon, elles seraient plus faciles à gérer que les garçons, ce qui expliquerait, si on veut, le fait qu'elles soient préférées par leurs parents. Évidemment, puis l'article mentionne, il y a toute une dimension culturelle autour de ça. Hein. Mmh. On sait, par exemple, je prends un exemple flagrant qui est celui de la Chine, où pendant longtemps, il y a eu une politique, la politique de l'enfant unique, hein, de 1979, et puis jusqu'à tout récemment, elle a été abolie complètement en 2021. Politique de l'enfant unique qui faisait en sorte que les parents préféraient avoir un garçon. Normalement, le garçon, bon, transmet le nom de famille, hein, poursuit un petit peu la tradition familiale. Le garçon également, qui est un soutien économique plus grand à la famille. Donc, il y a toute une dimension culturelle derrière ça, mais on se rend bien compte que dans nos sociétés occidentales, du moins, ce que nous dit l'étude, c'est que ce serait les filles, là, dans notre contexte social actuel. Là,
parce qu'elles veulent plaire.
Oui, c'est ça.
Étienne, dans notre préparation, dans notre emploi, c'est sûr qu'il faut se forger des opinions parfois puis faire aller un peu notre cerveau puis essayer de réfléchir autrement que ce qui est bon, le plus souvent crié un peu ici et là. Et quand j'ai eu cet article-là entre les mains, je me suis dit, parfait, avant de le lire, je vais essayer de me positionner puis essayer de comprendre. Une des réflexions que j'ai eues, puis je l'avais notée, c'est est-ce que ça se peut que finalement l'enfant favori dans une famille soit simplement le reflet d'une meilleure réussite parentale en termes d'application de valeurs ou d'application d'éthique sociétale. Des fois, un parent va vouloir éduquer les enfants de la même manière, va prendre le même processus, puis ça va coller sur un petit peu moins sur les autres. Est-ce que ça devient peut-être, d'une façon semi-automatique, l'enfant qui est préféré parce que le parent voit une réussite dans cet enfant-là et donc ça l'auto-projette sur sa réussite parentale?
Bien, je pense que c'est une excellente hypothèse que tu poses là. Hein. Puis je pense, par exemple, moi, j'ai deux enfants aussi qui fréquente l'école.
C'est lequel ton préféré?
Moi aussi,
je me suis posé la question, puis je peux tellement pas déterminer lequel est mon préféré. Mais en effet, dans nos sociétés, tu sais, je pense par exemple à l'époque de mon grand-père où les enfants étaient perçus un peu comme des travailleurs. Hein? Mon grand-père qui a été élevé sur une ferme, et puis mes arrière-grands-parents, tu sais, l'objectif d'avoir des enfants, est-ce qu'ils les aimaient sûrement, mais c'était avant tout, bon, de contribuer, si on veut, c'est un petit peu de contribuer à la ferme, hein? On les faisait travailler. On avait une conception, du moins, de l'enfant qui était différente de celle d'aujourd'hui, où aujourd'hui, nos enfants, oui, c'est un petit peu comme tu le mentionnais, des projets, hein? On veut qu'ils puissent réussir dans la vie, à commencer par le milieu scolaire. Et évidemment, moi, j'ai deux parents qui sont profs, là. Et puis on se rend compte que les petites filles, souvent, répondent beaucoup mieux aux attentes, ou du moins peuvent cerner davantage, c'est quoi, les attentes de l'enseignant, de l'enseignante, et puis performent mieux à l'école, sont plus faciles à gérer par les enseignants. Donc oui, la piste que tu mentionnes, c'est celle que je priorise aussi à la lecture de l'article là, qui a été publié dans la presse. Hein, puis qui a été l'article qui était le plus lu là, mm-hmm. cette semaine, qui démontre vraiment un petit peu l'intérêt que l'article a suscité, puis à quel point ça peut déranger, hein, de se faire dire que finalement on a un enfant qui est favori. Et ça, c'est un gros tabou. Ça me fait penser à une étude qui a été publiée il y a quelques années et qui portait sur les mères qui regrettaient d'être mères, tu sais, qui disaient, ben, si j'avais à retourner en arrière, peut-être que j'aurais pas d'enfant. Justement, pour l'aspect de la gestion, ça demande beaucoup de temps, une grande charge,
mais
une grande charge mentale.
Là. C'est confrontant pour un parent, là.
Ben vraiment, c'est sûr qu'un enfant, ça bouleverse aussi la vie professionnelle, la carrière, ça touche davantage, notamment les femmes.
Tellement fait couler d'encre. Les gens étaient très... Il y avait vraiment des clans très disparates, là, puis il y en avait un, entre autres, qui était extrêmement fâché de ce constat-là, puis... C'est drôle parce que moi, je me disais, ben, il y a au moins un aveu de vérité là-dedans. Il y a une réflexion en arrière de ça. Je pense pas que ça doit être exposé aux enfants, par exemple, parce que ça va nuire fort probablement au développement de cet enfant-là, de savoir que finalement, je t'aime, mais si j'avais recommencé, tu n'existerais pas.
Oui.
Mais ça reste essentiel que ces études-là soient faites. Puis ça me dérangeait que ça soit autant vivement critiqué, avec la nuance que j'ai apportée, de pas nécessairement le dire aux enfants. Étienne, t'en penses quoi?
Ben, en effet, je pense que la réalité, bien souvent, dérange. Hein, lorsque des études, notamment en sciences sociales, hein, lorsqu'on fait des études, par exemple, sur les planètes, bon, ça dérange pas personne. Mais lorsqu'on fait des études en sciences sociales, ben, ces études-là portent sur nous, sur nos comportements. Ça peut être très, très, très confrontant. Mais oui, moi, je suis du même avis. Je pense que c'est important d'en parler. Puis qu'il y ait cette prise de conscience-là aussi de la part des parents, qui vont peut-être être appelés à se questionner puis à changer leur comportement. L'étude faisait mention notamment du fait que se sentir moins aimé en tant qu'enfant, mais ça a des effets sur l'estime de soi, par exemple, sur la construction identitaire. Et puis ça peut avoir des répercussions là, tout au long de la vie. Ça peut faire boule de neige, faire en sorte que des enfants prennent leur trou... se sentent moins aimés et puis finalement n'ont pas la trajectoire sociale qu'ils auraient eu, qui auraient eu davantage cet amour-là ou cette impression-là d'être moins aimés que leurs frères, que leurs sœurs.
C'est pas un peu inévitable, Étienne, parce que j'imagine qu'il y a une question d'affinité aussi, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, là.
Absolument. Oui, absolument. C'est ce qu'on mentionne dans cette affinité-là. Dans l'étude, on mentionne que c'est plus un enfant et facile à gérer, plus il répond aux attentes, ben à la fois de la famille, puis aux attentes, je dirais, institutionnelles. Là, je pense à l'école, parce que tous nos enfants sont appelés à la fréquenter. Ça peut être le milieu de garde aussi. Évidemment, on développe des affinités avec cet enfant-là qui nous fait bien paraître, cet enfant-là qui occasionne moins de troubles, qui nous prend moins de temps en termes de gestion, etc. Donc, peut-être que c'est inévitable, mais du moins, c'est un article qui dérange, hein, puis à commencer par moi, qui est papa de deux enfants, une fille et un garçon, ça m'a un petit peu chamboulé, remis en question.
Mais est-ce qu'il faut s'en vouloir comme parent? Parce que justement, tu le dis, c'est confrontant, mais c'est une vérité, puis je vais rebondir sur ce que Pascal disait. Il y a aussi le phénomène des mamans qui, au deuxième enfant, quand elles tombent enceintes, il y a une culpabilité parce qu'elles ne sont pas aussi excitées qu'au premier. Ils n'ont pas autant envie de passer à travers la même affaire qu'au premier.
Ils ont moins de temps aussi.
Effectivement.
Absolument. Oui. Carrément, puis il y a tout le temps cette peur-là de je pense en tant que parent, là, pour les parents qui nous écoutent, mais lorsqu'on a le deuxième enfant, on s'est posé, moi, la question, moi puis la maman de mes enfants, on s'est posé la question, hein, à savoir est-ce qu'on va aimer autant le deuxième, est-ce qu'on va délaisser le premier, est-ce que l'enfant plus vieux va se sentir moins aimé? Donc je pense que c'est une étude qui à la fois dérange, mais c'est une étude qui à la fois parle à beaucoup de parents qui ont eu à passer, si on veut, à travers ce processus-là, ces questionnements-là,
ça peut peut-être
qui viennent avec la venue.
Mais si on se sent justement là, concerné par ça, est-ce qu'on doit faire, selon toi, je pense pas qu'il y a de façon de faire là, qui est préécrite là-dedans, là, un genre de petit devoir de conscience de dire, bon, c'est-tu parce que j'ai plus d'affinité avec mon premier enfant que j'accorde un petit peu plus d'affection à cet enfant-là par justement la réussite que je sens parentale dans le processus puis la réussite que l'enfant a l'individualité de sa personne. Fait qu'est-ce que je dois faire un travail du genre, hey, même si mon deuxième enfant est différent de moi, il m'apporte telle affaire que personne m'aurait apporté si cet enfant-là n'avait pas cette place-là dans ma vie, puis n'avait pas cette différence-là. Est-ce qu'on doit se confronter puis se reposer des questions pour pas que ça soit ressenti et peut-être pour amenuiser ce sentiment-là d'affection supplémentaire pour un enfant ou un autre?
Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a un devoir de conscience, à faire. Oui, se poser des questions si jamais on a plus d'affinité avec un. Puis aussi peut-être nous encourager à développer des affinités avec l'enfant qui est différent, qui est peut-être plus difficile à gérer, tenter de trouver des moyens aussi de développer davantage d'affinités, de voir le potentiel aussi que cet enfant-là peut-être qui dérange davantage puis de voir ça peut-être comme étant un point positif aussi, hein. Parfois, c'est les ceux qui dérangent, s'inscrivent, transgressent les normes. Il peut y avoir aussi des avantages.
Beaucoup,
à cela. Ce sera peut-être des enfants plus résilients, des enfants qui vont être davantage fonceurs, qui vont se démarquer. Donc oui, de réinterpréter un petit peu ce comportement-là dérangeant, de le réinterpréter puis de le voir peut-être comme une force au lieu de le voir juste comme étant un fardeau qui nous tombe sur la tête, qu'on doit gérer. Donc oui, ben je pense que les études qui sont publiées en sciences sociales, surtout celles qui dérangent, apportent cet examen de conscience-là. Puis pour ça, je pense que c'est important qu'elle soit publiée, qu'elle soit diffusée, puis qu'on en parle là, comme vous le faites aujourd'hui.
Parlant d'examen de conscience, j'ai envie de terminer ce sujet-là avec cette question-là. Est-ce qu'on est trop intense avec nos enfants au Québec, Étienne? Tu sais, je sens qu'on ne traite pas toujours nos enfants comme des humains en part entière, mais plutôt comme une partie de nous, très, très rattachée à notre être. Il y a des gens qui font des enfants pour régler des problèmes personnels, ce qui ne devrait peut-être pas être fait.
Réaliser leur rêve des choses.
Oui. Est-ce qu'on est trop intense peut-être avec nos enfants?
Je ne sais pas si on est trop intense avec eux, tu sais, c'est comme c'est une lecture qu'on peut en faire, un jugement qu'on peut poser, mais chose certaine, les enfants aujourd'hui occupent une place qui est très, très, très importante, peut-être plus importante que jamais dans l'histoire, je ne suis pas historien, là, mais c'est sûr que le rapport qu'on a avec notre enfant, et comme tu le dis, les enfants aujourd'hui sont un peu un prolongement de soi-même. Les enfants sont tellement aujourd'hui planifiés, pour la plupart des cas, pas tout le cas, mais sont attendus, on veut qu'ils soient parfaits, on les inscrit à des cours de X, Y, Z. C'est vraiment comme des projets, hein, aujourd'hui, des enfants, puis on veut que notre enfant réussisse, puis cette réussite-là, souvent, va rejaillir aussi sur le parent qui va en tirer une certaine fierté. Puis peut-être qu'un dans ce contexte-là, il y a peut-être un certain lâcher-prise là, qui est nécessaire de manière à ce que c'est ça, relâcher la pression, injecter un petit peu de lâcher-prise et puis de pas voir les enfants comme étant des projets, des extensions de soi, mais comme des petites têtes à part entière qui font leur petit bout de chemin. Puis bref, on est là, hein, pour les accompagner. Mais tout ça, ça dénote, j'irais là pour conclure rapidement, mais ça dénote vraiment, ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, la place qu'on accorde aux enfants.
Étienne Guertin-Tardif, qui est sociologue, auteur aussi du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». Étienne, tu restes pas loin, on a d'autres choses à jaser ensemble au retour de la pause. L'homophobie qui est en montée dans les écoles secondaires, une étude assez fascinante qui a été faite du côté de Montréal. On revient.
Le pentathlon des neiges sonne là.
Vous êtes dans l'open mic, 10h47. On a toujours Étienne Guertin-Tardif avec nous, qui est sociologue. Ça fait énormément jaser puis réagir, là, Pascal, sur le texto. Le sujet de l'enfant favori, on a des parents, entre autres, là, qui se prononcent.
J'adore ce qu'on reçoit. C'est un super partage. Entre autres, il y a quelqu'un super honnête qui dit « J'ai tellement été comparée à ma grande sœur qui était meilleure que moi à l'école, qui réussissait bien mieux que moi dans tout, que j'ai arrêté après un enfant parce que je voulais pas faire vivre ça à tous mes enfants si j'en avais plus qu'un. » Puis c'est tellement diminuant de se faire comparer que cette personne-là décide de faire un enfant. Étienne, t'es-tu surpris de ça?
Oui, ben écoutez, c'est ça fait réagir, hein? C'est sûr que ça fait réagir. Donc, surpris, je le sais pas. En même temps, on se rend compte que c'est un petit peu ce que l'étude témoigne aussi. Donc, mais oui, c'est intéressant de voir que les gens s'identifient à ça.
Quelqu'un d'autre qui dit, moi, j'ai deux filles, une de 13, une de 21 ans. Et je peux pas dire que j'en ai une que je préfère, mais je suis plus à l'écoute, par exemple, ou compréhensive avec la plus vieille, celle de 21 ans. Puis je crois que c'est parce qu'elle a été consciente d'un moment de ma vie qui a été difficile. Une thérapie à l'externe pendant environ 3 mois sur 2 ans. Et je pense que ça m'a rapproché un peu de cette personne-là, mais que pour une enfant, de voir sa mère malade, ça peut avoir des graves conséquences sur plusieurs choses. Fait qu'elle est un petit peu déchirée par rapport à ce partage de vie-là. Quelqu'un d'autre qui dit, lorsque je pense à l'éducation de nos parents qui était très sévère et l'éducation qu'on a avec nos propres enfants, pour, dans ce cas-là, là, pour l'auditeur, l'auditrice et des filles, je vous dirais qu'on est à la réflexion de ce qu'on a appris de nos parents sans plus et moins. On a le droit d'être strict, mais assez souple aussi pour répondre aux besoins de nos enfants et de leur offrir ce dont ils ont besoin, que ce soit des besoins essentiels ou autres. Mais elle dit, je crois que les enfants doivent avoir le sentiment de gratitude très tôt pour être confortables, entre autres dans le foyer familial. Là, si je résume la fin de ce texto-là.
C'est vraiment intéressant de vous lire. Il y en a qui sont outrés aussi du fait que certains parents agissent comme si leurs enfants n'étaient pas une personne à part entière, qui viennent combler un besoin. Il y a tellement de situations dans les différents foyers familiaux au Québec. 88-971-1021 si vous voulez continuer de partager. Il y a le 780-1021 par téléphone aussi, évidemment, la communauté Twitch. twitch.tv/BLVD/FM. On poursuit dans l'open mic avec Étienne Guertin-Tardif qui est toujours là. On change un peu de sujet. J'ai vraiment hâte de t'entendre sur celui-là parce que je sens que c'est tabou, c'est touché, c'est difficile de faire des constats parce qu'on veut pas, on veut pas nommer les mauvaises choses, on veut pas mal paraître. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de choses dans les derniers jours par rapport à la montée de l'homophobie au Québec, surtout dans les écoles. Des chiffres quand même assez préoccupants, il faut le dire, là. 40 % des jeunes qui éprouvent un malaise quand on parle d'homophobie dans leur entourage, contre 25 en 2017. Et c'est perturbant parce qu'on a souvent l'impression que les jeunes nous font évoluer. Et là, c'est peut-être pas ce qu'on sent. Qu'est-ce qui explique ces chiffres-là, Étienne?
Bien, en effet, tu as raison de le mentionner. Hein. Souvent, les jeunes sont perçus comme étant porteurs de progrès, comme étant idéalistes, davantage à gauche, si on veut, sur l'échiquier politique que les plus âgés. Donc, en effet, ça fait réagir. Ce sont des chiffres qui sont préoccupants. Et puis oui, c'est surprenant. En même temps, il faut rappeler que souvent, les mouvements, si on veut, de progrès social s'accompagne parfois de recul en arrière. Hein. C'est pas quelque chose qui est parfaitement linéaire, mais il peut y avoir des mouvements de backlash, excusez-moi l'anglicisme, mais de retour en arrière qui se trame. Là. Puis bon, je veux dire, en ce moment, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, des droits qu'on prenait pour acquis, qui finalement, on se rend compte que, hey, non, il y a du recul sur ces questions-là. Donc, c'est ce que ça nous enseigne. Mais évidemment, la grande question, c'est de savoir mais qu'est-ce qui explique hein, ce recul en arrière, cette baisse de la tolérance, voire même de l'ouverture hein, des jeunes.
Un tournant conservateur, là?
Bien, il ne faut pas absolument, négliger.
Face à quelque chose qui semble relativement acquis, hein, bien, relativement acquis, toute proportion gardée, mais envers l'homosexualité. Et puis moi, en lisant l'article, évidemment, je me suis posé des questions en me disant mais qu'est-ce qui explique ça? Et puis moi, j'ai deux hypothèses là, qui me sont venues en tête. Hein. Ce sont deux hypothèses. Ben, tu sais, premièrement, je pense qu'Internet est une niche de discours très, très, très accessible. Il y a à peu près de tout là-dessus. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour les jeunes qui fréquentent de moins en moins les médias traditionnels et de plus en plus vont suivre des influenceurs. Beaucoup plus facile d'avoir accès à des communautés où s'échangent des idées qui peuvent être davantage traditionnelles. Dans l'article auquel on fait référence, qui a été publié dans le Journal de Montréal, on parle notamment de l'influenceur Andrew Tate, là, oui. Tout le monde a entendu le nom. Donc, c'est peut-être plus facile d'avoir accès à ces discours-là, qui peuvent être bien construits, qui peuvent être cohérents, mais qui ont des conséquences visibles puis quantifiables, là, on le voit.
Oui.
Puis une autre, mais moi je me disais, on dirait que je suis pas satisfait par rapport à cette hypothèse-là, mais je me dis oui, mais pourquoi est-ce que les jeunes fréquentent ou sont sensibles à ces idées-là? Et puis je pense au fait que nos sociétés actuellement changent très, très, très rapidement. Hein? On vit dans une époque où tout s'accélère, et puis notamment il y a un changement drastique quant aux normes, puis dans ce cas-ci, normes, ce qui touche par exemple tout ce qui est le genre, l'ouverture hein, envers les questions LGBTQ2IA+. Là. Donc, peut-être que ce changement très, très, très rapide crée de l'insécurité. Des gens se sentent dépassés un petit peu par ce qu'ils voient, par les tendances de l'époque. Et je pense qu'à cet égard, ben, tu sais, les valeurs traditionnelles peuvent être une espèce de point de repère. Hein, quelque chose au... C'est sécurisant. On s'accroche à ça, c'est un point d'ancrage, c'est une base qui est solide. Donc, face à l'insécurité, si on veut, montante par rapport à ces transformations-là en matière de normes, touchant le genre, ben, je pense que c'est comme une espèce de refuge, hein, les valeurs traditionnelles, une espèce de refuge dans lequel on peut aller se vautrer. Et puis, ouais, ça donne une espèce de point d'ancrage.
Est-ce que c'est un manque d'éducation? Puis là, je parle pas de catégorie sociale. Là. Je parle vraiment, est-ce que c'est parce qu'on a pris pour acquis peut-être cette ouverture d'esprit-là puis qu'on a arrêté peut-être de se sensibiliser à la maison? Je sais pas.
Bien, peut-être que oui. Peut-être que c'est un manque d'éducation. Puis il faut se rappeler que c'est important de parler à l'école, par exemple, ou à la maison, de parler d'ouverture, de tolérance. D'éduquer sur ces questions-là, parce que si on le fait pas, eh bien, évidemment, les jeunes vont le faire via d'autres moyens. Par exemple, en suivant, comme on le disait, des influenceurs ou vont s'accrocher à ce type de discours-là, très populaire, disponible sur Internet, des discours qui sont cohérents, qui sont bien présentés, qui sont... Là, j'ai bien présenté... J'adhère pas à ça du tout.
Non, dans le contenant. Dans comment c'est fait, dans comment c'est présenté.
Ouais, ce sont des discours qui sont efficaces, là, si les jeunes y adhèrent. Donc, oui. Puis, je tiens, je fais un clin d'œil, là, je tiens à mentionner tout le travail. Ce sont des chiffres hein, qui nous proviennent d'un organisme qui s'appelle le GRI. Oui. Et puis, je tiens à mentionner tout le travail que fait le GRI à cet égard-là. Moi, je suis enseignant de sociologie au Cégep, et puis le GRI est venu à plusieurs reprises dans mes classes et puis font un travail absolument exceptionnel. Ont des intervenants qui sont exceptionnels aussi.
Pour ceux qui ne le savent pas, le GRI Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui aide à démystifier là, tout ce qui est diversité sexuelle, de genre au sein de la société. Là.
C'est pas prôner quoi que ce soit. C'est expliquer, présenter aider. Où est-ce qu'on en est, parce que je sais qu'il y en a qui vont sauter aux barricades tout de suite. Mais Étienne, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis moi, je reviens. Je pense que là-dessus, on aurait une discussion ensemble, là, au moins pour une heure. Là. Mais Andrew Tate, là, il y a 10 ans environ. Ça fait peut-être justement 10 ans que je fais de la radio. Puis déjà, on commençait à en parler, mais c'était underground. Puis les gens posaient pas de questions, puis voulaient pas aller voir. Puis mettons, à ce moment-là, j'avais 20 ans.
C'était juste un tata de l'Internet. C'était pas si important.
Je travaillais avec quelqu'un qui aimait ça aller dans le dark web pour la job en passant. Puis qui aimait ça aller dans ces genres de petites strates-là dont on ne parle pas beaucoup. Puis c'était beaucoup de réponses parentales, genre, bof, c'est des affaires d'Internet. Et ça, l'incompréhension, le manque de curiosité, le manque d'attention donnée à ça a fait en sorte que ça a fait un effet boule de neige, puis finalement que ça s'est parlé un peu dans les strates de l'école et autres, que les enseignants n'étaient pas au courant, que les parents n'étaient pas au courant. Puis ça me fait penser à tous les parents cool qu'on a vus, là, qui étaient bien au fait de ce qui se passait dans la réalité des jeunes au secondaire parce qu'ils s'intéressaient avec une ouverture, mais quand même avec une petite lumière qui est capable de s'allumer à des moments, qui jouaient au GameCube avec leurs enfants, qui jouaient au PlayStation, pas parce qu'ils avaient le goût de jouer, mais de comprendre ce qui se passait dans la vie de leur enfant, faisant en sorte qu'il y avait une réalité sincère devant eux puis un constat qui pouvait être fait. Puis il y a beaucoup de gens, moi la première, qui, dans l'habitude quotidienne, roulent nos vies là, puis continuent avec les outils qu'on a depuis toujours puis qui avancent comme ça, mais qui ne se posent pas peut-être assez de questions par rapport à ce qui est nouveau, qui ne s'intéressent pas même si ça demande du travail. Tandis qu'il y a des parents qui restent très au courant, qui posent des questions, qui disent « qu'est-ce que tu consultes? Montre-moi ce que tu écoutes ces temps-ci » et qui, eux, savaient et qui ont été capables de prémunir de leurs enfants de peut-être pas avoir de questionnement sur un Andrew Tate parce qu'entre jeunes, ils se convainquent, ils écoutent, ils vont en renforcement dans certaines positions sociales versus un « hey, tu penses quoi de ce qu'il dit, lui? Tu l'écoutes pourquoi? » Est-ce que tu trouves que ça a un sens? On a un devoir sociétal à faire de s'intéresser, malheureusement, même si ça prend du jus de cerveau.
Ça fait partie de l'éducation. Là.
Absolument, absolument. Puis tantôt, on parlait que la société se transformait rapidement. Absolument. Puis je pense que en tant que parent, on a un devoir à faire de tu sais, au lieu de, comment dire, de juger les pratiques de nos enfants ou de juger ce qu'ils visionnent, ben de s'intéresser à ce qu'ils font, de s'intéresser au channel YouTube qu'ils suivent, qu'ils ou elles suivent. Parce qu'en effet, je pense qu'on a minimisé, si on veut, l'influence que peuvent avoir, catégorie générale, là, mais les influenceurs, parce que clairement, ça nous a échappé. Mm-hmm. On a minimisé l'influence de ces discours-là. Bon, ce sont des gens qui sont sur Internet. Je pense pas que ça va modifier nécessairement le comportement de mon enfant. Mais alors qu'on se rend compte que finalement, puis les chiffres du gris, là, tu les mentionnais, Audrey, en début d'entretien, sont alarmants, sont préoccupants. Donc oui, il y a vraiment un devoir à faire de s'intéresser à ce que nos jeunes font, aux gens qu'ils fréquentent, qui les influencent. Donc oui, ça nous ramène à notre devoir parental d'être là pour nos enfants, puis nous intéresser, hein, dans une perspective vraiment compréhensive et non pas moralisatrice, de s'intéresser à ce qu'ils consomment comme contenu, et puis d'entendre également ce que nos jeunes ont à dire, puis de comprendre comment ça se fait qu'il y a un recul, par exemple, de l'ouverture ou de la tolérance envers ces questions-là. Avoir vraiment être vraiment dans cette perspective-là, dans cette approche-là, de vouloir comprendre.
Tu sais, en début de conversation, tu as parlé, Étienne, d'à quel point c'était normal, cette espèce de mouvement conservateur-là qui revient chez les jeunes. On se balance avec les années. Puis le fait d'être traditionnel, c'est rassurant. Je me demande si on ne crée pas ça nous-mêmes. Puis c'est une drôle de question qui me rend un peu mal à l'aise, mais est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied? Puis avec toute cause, là on parle de l'homophobie, là, je vais rentrer le racisme là-dedans. Je vais rentrer tout ce qui nous dérange puis qui nous rend inconfortable. Des fois, j'ai le sentiment... qu'on en parle tellement qu'on attire l'attention sur ça, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont comme un peu submergés. Là, c'est trop. Puis c'est là peut-être qu'on recule. Je ne sais pas si la question est claire, là, mais j'ai l'impression qu'on devient activiste sur certains combats de société à un point où nous-mêmes, on crée ce recul-là. C'est-tu clair?
Comme si on en demandait beaucoup, en fait. Hein?
Peut-être que
c'est ça.
Oui.
On en demande beaucoup d'être ouvert à toutes sortes de nouvelles réalités. On demande aux enfants d'être sensibles à ça. Puis en effet, puis ça va tellement vite, il y en a tellement à faire que peut-être qu'en effet, à un moment donné, il y a un trop-plein. Et puis ce qui explique cette espèce de retour-là en arrière, qui explique que des jeunes, tout d'un coup, sont un petit peu... je veux dire, on doit être tolérant à toutes sortes de réalités. Comme on le disait, ce retour-là aux valeurs traditionnelles, solides, bien implantées. Voici c'est quoi un gars, voici c'est quoi une fille, voici c'est quoi un couple. C'est quelque chose de rassurant dans lequel, bon, on peut se reconnaître, c'est plus facilement compréhensible. Fait que peut-être que oui, hein, il y a peut-être une piste de réponse.
Ben, j'ai pas la science infuse, mais je sens des fois que c'est ça, nous-mêmes, on attire l'attention sur quelque chose qui mérite pas cette attention-là. Puis je vais faire un exemple super court. Moi, mon oncle est homosexuel. Il est rendu dans la soixantaine. Il n'a pas eu la période la plus facile là, pour le coming out. Puis ça a toujours été littéralement normal chez nous. Moi, je m'en fous de ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Tu comprends? Moi, j'avais deux oncles, point barre. Et là, en vieillissant, tu vois que c'est un sujet, ça fait jaser dans les médias. On parle du côté négatif, pas de l'homosexualité, mais de ce qui peut arriver, tu sais, des enjeux, de l'homophobie. Et puis c'est là que tu te mets à te dire comme, OK, il y a une différence. Ce que moi, je remarquais pas étant plus jeune parce que ça fait...
qu'on met les projecteurs sur quelque chose qui...
Exactement.
Essentiellement dans ta vie au départ.
Pareil pour le racisme.
Mais c'est ironique parce que... On vient de dire qu'on a peut-être laissé aller des courants parce qu'on ne leur donnait pas de l'importance, parce qu'on pensait que c'était anodin.
On n'est jamais équilibré, en fait, en société, je sens.
C'est ironique, mais c'est super important ce que tu dis, parce que c'est sûr qu'il y a différentes façons de réagir à ça. Puis je vous écoutais parler, Étienne et toi, là, ça m'a fait penser aussi à tout le courant humoristique qui se fait serrer les ouïes. Là. Tu sais, vous n'avez plus le droit de rire de ça, vous n'avez plus le droit de parler de ça, vous n'avez plus le droit de ci, vous n'avez plus le droit de ça.
La liberté d'expression.
Est-ce que... Ou juste comme de dédramatiser, là, des fois, par des farces. Est-ce que aussi le fait qu'on s'est aseptisé au niveau humour sur certains sujets a fait en sorte qu'on est, on a plus ce courant-là qui dédramatise. Puis un Yvon Deschamps qui commence à parler comme un beau sacripant niaiseux qui fait son raciste sur une scène, faisant ça que le monde disait « Hey, c'est-tu cave du monde demain? » Mais qui en riait, puis que ça a amené ces discussions-là, puis qu'on a perdu.
On rend tout tabou.
Oui. Est-ce que ça peut ne pas avoir aidé aussi?
Peut-être. C'est une question sensible. Peut-être que ça en fait partie. Moi, ce que je dirais là-dessus, je pense qu'il y a eu quand même des avancées hein, sur ce plan-là. Là. Puis moi, je le parle de mon point de vue personnel. Moi, lorsque j'étais plus petit, je venais d'un petit village, mais reste que l'homosexualité ou le racisme, c'est quand même présent dans les discours, dans l'humour. Certains pouvant en souffrir. Je pense que mes enfants aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts sur ces questions-là. Mais je mettrai ma posture de prof de sociologie ou de sociologue puis dire mais ce qui est vraiment important puis qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut tenter de comprendre. Puis parfois on condamne certains comportements qu'on juge intolérants, bon, homophobes, racistes, etc. Mais c'est vraiment important aussi de faire ce travail-là, de tenter, OK, mais tentons de comprendre ces jeunes-là qui pourquoi? Portent ces valeurs-là. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils ou elles les portent?
Au lieu de se fâcher.
Ces valeurs-là, au lieu de te fâcher, au lieu de les marginaliser, au lieu de leur coller des étiquettes, mais tenter de comprendre c'est quoi la source de ça. Puis je pense que ça serait vraiment un premier pas, si on veut, pour façonner la société dans laquelle on souhaite vivre.
Est-ce que c'est une tendance qu'on observe seulement au Québec ou selon toi, il y a des phénomènes similaires dans d'autres pays occidentaux?
Bien, je pense que c'est un phénomène qui est global. On voit la montée de l'extrême droite, notamment en Europe. En ce moment, écoutez, on se parle alors que Trump est entré en fonction avant-hier. C'est très, très, très présent aussi aux États-Unis. Donc oui, je pense que c'est un mouvement qui est global. Et j'ose croire, même qu'au Québec, j'ose croire que c'est moins pire que chez nos voisins américains. Donc, évidemment,
temps.
Parce qu'en chose certaine, c'est pas cantonné au Québec. Là. Mm-hmm.
Ça peut-tu jouer aussi tout ce qui est... on parlait de la peur tantôt par rapport à la différence. T'sais. Dans nos écoles, est-ce qu'on apprend aux jeunes à reconnaître un peu leurs émotions puis à travailler pour pas qu'elles prennent le dessus dans certains contextes?
Ben, j'ose croire qu'on le fait. J'ose croire qu'on le fait à l'école, que les profs sont sensibilisés aussi à ces réalités-là. Donc, j'ose croire qu'on le fait, mais il y aurait quand même des questions à se poser sur à quel point est-ce qu'on le fait. Lorsqu'on parle, par exemple, d'éducation à la sexualité, moi, j'ai un collègue qui s'appelle Patrick Doucet, qui travaille sur ces questions-là depuis près de 30 ans, tente de ramener l'éducation sexuelle à l'école, ou du moins de la transformer de manière à ce qu'on aborde certains sujets de manière plus crue, qu'on en parle davantage. Donc, est-ce qu'on le fait? Je pense que oui. Est-ce qu'on pourrait le faire davantage et puis autrement? Ben, je pense que oui aussi. Je pense que ça passe par là. À l'école, tout le monde y est, tout le monde s'y trouve. Donc, je crois que c'est un endroit privilégié où faire de l'éducation, un endroit privilégié pour faire de l'éducation sur ces questions-là parce qu'encore une fois, si on ne le fait pas, eh bien, les jeunes iront s'informer ailleurs, notamment sur Internet où on trouve toutes sortes de discours, et notamment des discours intolérants. Ouais. Oui, absolument.
J'ai pas le choix, Étienne, d'aborder avec toi un sujet assez touché, là, mais chaque fois qu'on parle d'homophobie, surtout du côté de Montréal, dans les écoles, quelque chose qui revient tout le temps dans les discussions personnelles, mais personne n'ose les poser, malheureusement, de façon publique, c'est est-ce que l'immigration y est pour quelque chose? Et là, sans racisme, sans monter d'un grand rideau, là, juste le principe de culture qui est différent, ce qui est totalement normal, on va se le dire.
Ouais.
Puis nous autres, on est porte grande ouverte pour l'immigration, ce que moi, j'ai toujours admiré du Québec. Là. J'aime ça,
absolument.
Ce multiculturalisme-là. Mais est-ce que, malheureusement, la différence de culture peut amener ça chez nos jeunes dans les écoles? Parce qu'on le voit quand même. Là.
Bien, c'est sûr que oui, certaines personnes... qui ont grandi ailleurs avec des valeurs bon, qu'on pourrait qualifier de plus traditionnelles, c'est sûr que leurs prises de position parfois vont être différentes hein, ou ne sont pas rendus au même stade que nous sur ces questions-là. Je ne tiens toutefois à spécifier que dans l'étude menée par le gris. Hein, on mentionne que la religion n'a pas d'impact.
N'a pas d'impact.
Hein, c'est ce qu'on mentionnait, là, que la religiosité des étudiants, ou des élèves plutôt, n'était pas en cause dans la montée de l'homophobie.
Sans parler de religion, j'aurais été vraiment plus vers le culturel dans la mesure où, tu sais, si tu as été élevé dans des valeurs où, par exemple, l'homosexualité, chez toi, c'est pas quelque chose qui est commun ou accepté, bien, je pense que sans parler de religion, c'est malheureusement quelque chose que tu as ancré en dedans de toi à la base. Là.
Absolument. En même temps, ici, on parle d'élèves, hein, fait que on parle des jeunes. Donc, écoutez, pour répondre à ta question, Audrey, j'oserais pas m'avancer là-dessus, faute d'avoir des données à cet égard, mais on peut faire l'hypothèse que oui, que ça peut jouer, et d'où l'importance, encore une fois, de mettre de l'emphase là, sur de l'éducation à cet égard et à poursuivre le travail que fait le gris, notamment, qui va dans les écoles, hein, puis souvent, le gris, comment ça fonctionne, c'est qu'on a des intervenants qui eux-mêmes font partie de la diversité sexuelle, qui témoignent de leur vie, qui témoignent de leurs histoires, qui font en sorte que, bon, là, les élèves rendent compte que, bon, quelqu'un qui est homosexuel est quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes valeurs que moi, avec lesquelles je pourrais très, très bien être ami. Donc, ça permet de dédramatiser, de démystifier, si on veut, l'homosexualité. Et tant mieux si ce discours-là aussi peut coller à des élèves qui ont été socialisés ailleurs et de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte que finalement, on a tout à gagner à être ouvert, à être tolérant envers les gens qui sont issus de la diversité sexuelle.
Le chiffre, c'était 40 % des jeunes qui éprouvent un malaise avec l'homosexualité en ce moment. Comme sociologue, en terminant, est-ce que tu as l'impression que ça peut s'estomper rapidement ou que ces chiffres-là risquent quand même d'augmenter dans les prochaines années?
Je peux pas prédire l'avenir, mais je pense que j'ai le même souhait que vous. Je souhaite évidemment que ce type de comportement-là, d'idées-là, s'estompe au fil des prochaines années. Et une étude comme celle-là, du moins, c'est comme un signal d'alerte. Hein. Fait que je souhaite que des moyens soient pris de manière à ce qu'on revienne, du moins au niveau de 2017, là, et que ça puisse continuer à descendre là, au fil des prochaines années. C'est le souhait que je fais avant tout en tant que citoyen, en tant que papa. Et en tant que sociologue, en tant que prof.
Étienne, depuis tantôt, je te présente comme sociologue, oui, mais comme auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins », je veux absolument qu'on le mentionne avant de se quitter. C'est un livre qui est sorti en 2024, à l'automne, si je ne me trompe pas, c'est là qu'on a le plus jasé. Là.
«
Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins et autres phénomènes de société ». Expliquez pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, qui ne l'ont pas lu, tu traites de quoi exactement?
Ben, écoute, dans ce livre-là, j'aborde 7 thèmes différents qui sont des questions, moi, que j'aborde en classe. Je parle à la fois de la réussite des joueurs de hockey, je parle de pourquoi est-ce que les gens ne souriaient pas sur les photos. Hein. Je ne sais pas si vous avez des photos de vos arrière-grands-parents, mais souvent, ils vont avoir un visage très sévère, très austère, ils n'ont pas l'air très gentils. Donc, j'aborde des phénomènes comme ceux-là. Et évidemment, le titre du livre renvoie à un des chapitres de mon ouvrage sur pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins. Et puis ce chapitre-là, en fait, aborde les inégalités scolaires. Hein? On le sait qu'on n'a pas tous les mêmes chances d'avoir une trajectoire scolaire longue, d'aller à l'université, par exemple. Et puis, moi, j'ai tenté de mesurer ça en fonction des prénoms. On le sait que certains prénoms qui sont fortement concentrés dans des classes sociales particulières. C'est le cas des prénoms anglophones qui sont donnés dans des milieux francophones. Donc, moi, j'ai tenté de vérifier avec les prénoms qui étaient à la mode. Là. Moi, je suis né en 89, là. Donc à la mode à mon époque, les Dave, les Steven, les Kevin. Puis je me suis dit, hey, je vais tenter de mesurer si les jeunes de mon époque ont tous eu les mêmes chances de devenir médecins en fonction, si on veut, de leur prénom. Et par là, en fonction de leur milieu social d'origine. Et ce que j'ai découvert, c'est que, par exemple, 2 Kevin sur 1000 naissances, nés dans les années 80, là, sont devenus médecins. Donc, c'est très, très, très possible de s'appeler Kevin et d'être médecin. Il y en a aujourd'hui, il y en a même qui m'ont écrit. Toutefois, c'est très, très peu lorsqu'on compare à d'autres prénoms. Si je prends mon prénom, Étienne, ils sont 10 Étienne sur 1000 naissances nées dans les années 80 qui sont devenues médecins, 14 Antoine, 12 Louis. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'en fait, il y a une inégalité d'accès, si on veut, à l'université. On n'accède pas à l'université uniquement en fonction de nos caractéristiques personnelles, notre potentiel intellectuel, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir avec le milieu social d'origine. Donc, les jeunes issus de milieux qu'on appelle là, imparfaitement les milieux populaires, là, qui sont souvent caractérisés par des parents qui ont une scolarité plus courte, mais ont beaucoup moins de chances que les autres d'accéder à des programmes aussi sélectifs, contingentés, comme celui de la médecine, en fait.
Je trouve ça super intéressant, super intelligent aussi. C'est quelque chose à quoi j'aurais pas pensé de faire cette corrélation-là. J'imagine qu'on retrouve ce livre-là un peu partout dans les différentes librairies.
Oui, on le retrouve un petit peu partout.
Encore merci, Étienne, de ton temps ce matin. Super apprécié. Hey,
merci pour tout.
À la prochaine.
À la prochaine, j'espère.
Étienne Guertin-Tardif, sociologue, auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». J'ai vraiment trouvé ça le fun aujourd'hui de parler de ces sujets-là sociaux qui vous font excessivement réagir en passant. Là.
Mais ça peut être émotif. Si tu t'appelles Kevin, tu dis « Oh, moi, je suis pas capable de réussir ». Mais tu sais, c'est pas l'apogée non plus être médecin. C'est juste que je trouve ça tellement intéressant, l'étude qui a été faite du genre « Hey, t'es-tu né dans une... » Tu sais, toi, là, ils t'ont donné ce prénom-là, pourquoi? Parce qu'il était populaire dans la classe sociale, tout le monde l'entendait, c'est un beau prénom. Là, tu te dis, ah, parfait, j'ai appelé mon fils comme ça. Mais est-ce que ta famille avait l'argent de t'envoyer dans des écoles où tu allais performer à ton plein potentiel? Est-ce
exactement
que tes parents t'ont répété toute ta vie que t'as pas besoin de plein d'études? C'est pas grave. T'as juste à finir ton secondaire, tu vas trouver une job. Regarde, nous, on a trouvé une job. Mm. Est-ce qu'on t'a encouragé à aller plus loin là-dedans?
Il y a le fait aussi, je pense, qu'on a veut pas, là, dans le pur jugement sans réfléchir, une image de certains prénoms. Je vais vous nommer Karen.
Mais pourquoi? Parce que ça vient peut-être de classe
absolument,
sociale?
Absolument. Ou... Tu sais, Kevin, on le voit avec sa civique droppée. On a tellement ri, on a tellement jasé. Tu sais, on fait des blagues avec ça. Et, fait que je trouve ça fascinant, cette corrélation-là, que j'ai jamais vue aborder, vois-tu, dans des livres. Fait que avec celui d'Étienne Guertin-Tardif, vous pouvez définitivement évaluer ces corrélations-là. Super intéressant. Vous êtes dans l'open mic, il est 11h15. Et au retour, on se gâte. Leonard Skinner, qui sera du côté du Centre Bell. On a une paire de billets pour vous.
Marceau,